Le secteur jeunesse de la MJC de Lombre-les-Doués a, en partenariat avec le SMAC, réalisé le portrait de Jacques Vernier, publié sous la forme de fascicules dans la collection Les Grands des Hauts-de-France. Ilan et Camille sont deux jeunes qui ont fait partie de cette aventure et c'est en présence de Jacques Vernier qu'ils présentent le résultat de leur travail initié par le SMAC, représenté par Arnaud Courtecuisse.
Alors le SMAC, c'est le service mobile d'activité culturelle. Donc c'est une association qui existe depuis 20 ans, qui organise notamment une biennale d'art contemporain hybride, qui a quelques années fait aussi un recueil des cahiers de Douai, en fait les poèmes d'Arthur Rimbaud, mais revisités, mis en musique en fait par des artistes comme Charles Couture, HK ou Kali, et puis qui est à l'origine en fait de cette petite série de livrets sur des grands personnages.
C'est une collection.
Voilà, c'est une collection en fait où l'idée c'est de s'intéresser en fait à des personnalités diverses des Hauts-de-France. Il y a déjà eu Valérie Bonneton ou Ségolène Lefebvre, la boxeuse. Et là, c'est Jacques Vernier, en fait, personnalité emblématique en fait autour de l'environnement. Et puis je le dis d'autant plus que, à côté d'être le président du SMAC, j'ai été pendant plus de 20 ans à l'agence de Loire-Picardie, dont Jacques Vernier a été un des directeurs emblématiques.
Pourquoi le rapprochement dans le cadre de cette série avec la MJC de Lambre, ça s'est passé comment ?
Alors, il y a des contacts en fait qui se font depuis déjà longtemps en fait entre le SMAC et les différentes MJC et notamment celle de Lambre ou celle de Douai. Donc voilà, ça a été tout naturellement en fait que cette idée s'est développée et que nous avons pu avoir la participation de jeunes qui sont à cette MJC et qui ont développé en fait ce petit document que vous avez, ce livre que vous avez aujourd'hui sur les tables.
Alors, il y en avait plusieurs de jeunes, tout à l'heure on en aura deux avec nous. Pourquoi c'est intéressant d'avoir le regard et le projet mené par cette jeunesse ?
Mais parce que la jeunesse s'implique sur les questions d'environnement, on le voit, en fait, elles sont très, très présentes, pour d'abord insister en fait sur l'importance de ces enjeux, mais surtout pour être, je dirais, acteur de solutions autour en fait des problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de l'environnement. L'environnement et la pollution, le changement climatique, c'est pas qu'une fatalité, c'est aussi en fait une sorte de défi qui se pose et pour lequel il existe des solutions et c'est les jeunes en fait qui peuvent être à l'origine de ces solutions ou en tout cas les porteurs de ces solutions.
Monsieur Vernick, avant qu'il soit avec nous, quels souvenirs vous en gardez de ces rencontres avec ces jeunes de la MJC ?
Ah ben c'était assez inoubliable parce que en fait. Bon, c'était vraiment des très jeunes, hein, des ados, on peut dire. On sentait qu'ils étaient un petit peu sur la réserve au départ, où ils étaient timides, quoi. Bon, voilà. Et puis, ils se sont vraiment lâchés pendant l'entretien. Et donc, quelque part, ça m'a fait plaisir parce que l'entretien est devenu très fluide au bout d'un certain temps. Voilà.
Est-ce qu'ils se permettent de poser des questions peut-être que les adultes n'osent pas forcément poser aux responsables ?
Oh non, vous savez, certains adultes, notamment parmi les journalistes, ont posé parfois des questions offensives. C'est leur rôle d'ailleurs. Et puis pour les ados, oui, effectivement, ils n'ont pas de réserve.
On va les faire venir juste avant de les retrouver. On va remonter un peu le temps et puis on va retourner. Et si j'ai choisi cette date, c'est une date bien spécifique. On est en 2009. 2009, j'avais eu le plaisir de vous interviewer. On était aux salles d'Anchin, me semble-t-il, à Douai. Et ça va peut-être vous revenir, on était avec Hélène Flautre. Sur la question, juste avant les élections européennes, sur la question de l'énergie, on va écouter quelques instants et puis on se retrouve de suite après, ça dure une petite minute, et on se retrouve normalement de suite après avec les jeunes de la MJC.
Le réchauffement climatique, qui est, dans les phénomènes environnementaux, sans doute l'un des plus difficiles à maîtriser dans les années et dans les décennies qui viennent. Puisque le réchauffement climatique, c'est le fameux gaz carbonique. Et on voit bien donc que c'est chaque fois que nous consommons de l'énergie, et qu'à vrai dire nous consommons tout court, que ce gaz carbonique se rejette dans l'atmosphère. C'est donc toute notre consommation d'énergie qu'il faut maîtriser pour essayer de juguler ces CO2. Il y a une autre alternative, c'est de se dire, choisissons des productions d'énergie qui ne rejettent pas de CO2. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a l'énergie nucléaire sur laquelle je suis, j'ose le dire, hein, partisan de l'énergie électronucléaire, même très partisan. Et il y a aussi les énergies renouvelables, dont je suis d'ailleurs tout autant partisan. Il serait hors de question de faire le tout nucléaire. Mais on voit bien aussi que les énergies renouvelables, dont je suis farouchement partisan, ont pu rencontrer ici ou là quelques difficultés. Mais je crois que nulle énergie, ni le charbon, ni le pétrole, ni le gaz, ni l'énergie nucléaire, ni les énergies renouvelables ne sont absentes d'un certain nombre d'inconvénients. L'essentiel et le plus sûr, ce ne sera pas de diversifier les modes de production d'énergie, mais de maîtriser la consommation d'énergie.
On était en 2009. On dirait que c'est enregistré hier, finalement, parce que le constat paraît à peu près le même.
Le constat est tout à fait le même. Et d'ailleurs, les débats qui étaient déjà chauds à l'époque sur le choix de la meilleure énergie continuent. Vous avez des gens qui continuent d'être hostiles à l'énergie nucléaire. Vous avez des gens qui sont hostiles aux énergies renouvelables, bien que leur coût depuis 2009 se soit effondré. En 2009, ça coûtait encore très cher. Aujourd'hui, c'est devenu l'énergie solaire et l'énergie du vent parmi les énergies les moins chères au monde. Mais vous savez, on a l'impression que les gens ils sont partisans des énergies comme si c'était des religions. Voilà. Ils ont leur religion pro ou anti-nucléaire, leur religion pro ou anti-énergie renouvelable. Et il n'y a pas beaucoup de débats raisonnés et de débats scientifiques dans tout ça. Ça m'effraie parfois un peu.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Ilana.
Bonjour.
Vous avez donc participé à l'interview de Monsieur Jacques Vernier. Aujourd'hui, présentation du livret. Vous l'avez vu le livret toujours ? Pas encore ?
Non.
On l'a pas encore vu.
Non, parce que voilà, c'est, pour eux, depuis tout à l'heure, c'est une torture. Hein. Ils ne l'ont pas vu. Interdiction absolue de le voir pour l'instant. D'abord, première question. Qu'est-ce que vous pourriez dire de vous s'il fallait vous présenter ? Tout à l'heure, on disait, avec M. Vernier, on est un peu ici, chez nous. Quand vous êtes à la MJC, vous êtes aussi un peu chez vous.
Oui. Bah, c'est comme une deuxième maison. J'ai l'impression de pouvoir être moi-même ici, comme si on n'allait jamais me juger.
Ilan ?
Pareil, c'est comme si j'habitais ici, je venais tous les jours, je mangeais ici, comme si je dormais ici.
Tu vis MJC, quoi.
Voilà.
Quand on t'a proposé de faire l'interview de M. Vernier, d'abord, est-ce que tu connaissais Jacques Vernier avant ?
Bah, juste de nom avec le parc Jacques Vernier.
Voilà.
Sinon, non.
Camille ?
Bah, moi aussi, juste de nom.
Qu'est-ce que vous avez dit quand on vous a dit, bah voilà, vous allez interviewer Jacques Vernier, qu'on vous a présenté qui il était. Quelle était votre première réaction ?
Bah, qu'on allait pouvoir interviewer quelqu'un qui était connu.
Que c'était quelqu'un d'important.
En quoi quelqu'un d'important ?
Bah, pour la planète, pour... Jacques Vernier, c'est comme un homme de l'écologie. C'est comme si c'était le super-héros de l'écologie.
Le super-héros de l'écologie. Monsieur Vernier, ça vous va, ça ? Super-héros de l'écologie ?
C'est trop.
Alors, en quoi il était le super-héros de l'écologie pour toi ?
Parce qu'il il a fait des bonnes choses en rapport avec l'écologie. Il faisait partie de l'agence de l'eau.
Ouais.
Il était président. Et ça, déjà, c'est très important. Après, j'ai plus de tête exactement, mais enfin, je trouve ça important d'être autant impliqué.
Ça te parle, la question de l'engagement ? En quoi tu te sens, toi, parfois engagé également ?
Bah, moi, je me sens engagé quand les gens trouvent que je sers à quelque chose dans un projet, que ce soit dans les projets de l'MJC, que ce soit dans mes projets personnels. Enfin, s'engager, c'est important.
Monsieur Vernier, comment on fait pour inviter la jeunesse à s'engager ? C'est un des vecteurs, ça, que de les associer dans des projets tels que celui-ci, la question de l'engagement de la jeunesse. C'est une des clés de la solution pour faire évoluer les choses favorablement?
Moi, je trouve que ce soit pour une cause ou pour une autre cause, parce qu'il y a plein de causes pour lesquelles on peut s'engager, c'est très important, parce que ça donne un but à la vie, ça donne une flamme, ça donne... La vie est un peu terne, est un peu triste si on ne s'engage pas.
S'engager pour une ville, tu as quel âge? 15 ans?
Oui, j'ai 15 ans.
Tu auras 16 ans quand?
Le 16 mars.
Tu pourras pas encore voter pour les municipales. Tu aurais aimé voter?
Oui.
Pourquoi?
Bah pour me faire entendre.
C'est-à-dire
exprimer ce que je ressens ou bien aider la ville.
C'est aussi important de voter que de s'engager pour toi?
Oui.
Tu fais partie du CLJ?
Oui.
C'est quoi ça?
C'est le conseil comité Lambre Jeune.
Le comité Lambre Jeune, on y fait quoi au CLJ?
On crée des projets pour la ville, du genre la Color Run.
Ouais, donc c'est une course avec de la poudre de couleur, oui. C'est ça, où on s'amuse, on fait un peu les fous?
Bah, il n'y a pas que ça.
C'est-à-dire?
On s'engage aussi à verser de l'argent pour des associations comme l'UNICEF. Après aussi, on a des journées exceptionnelles, là où on peut aller dans des parcs d'attractions, où parfois on va visiter des lieux, comme la dernière fois on est allé visiter un hôpital, où à l'intérieur il y avait une association, c'était Ludhôpital, et là-bas ils récupèrent des jouets pour enfants, pour les offrir aux enfants qui sont malades.
Donc des actions solidaires, et puis là vous avez on peut en parler, vous avez quand même une grosse envie sur Lambre-les-Doués.
Oui.
Ouais, c'est quoi?
C'est le skatepark.
Bah, il y en a à Douai.
Bah oui, mais c'est mieux d'en avoir dans la ville.
Puis il y a un problème au skatepark à Douai de temps en temps.
Ouais, au skatepark à Douai, souvent c'est inondé, les tuyaux sont bouchés, donc les évacuations se font pas très bien.
La gestion de l'eau, justement, on y revient peut-être de façon biscornue, mais c'est vrai que ça a été pour vous un engagement fort, Monsieur Vernier.
Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais arrivé à Douai il y a une cinquantaine d'années. C'était pour prendre effectivement la direction de l'agence de l'eau en 1974. Hein. Pour rappel, hein, l'agence de l'eau, c'est cet organisme public qui gère la ressource, notre ressource en eau d'autre part, qui fait en sorte que nous disposions d'eau potable, hein. C'est vital de disposer de l'eau potable. Et puis, cette agence de l'eau aussi, elle contribue à lutter contre la pollution qui est déversée par les villes ou par les industries ou par les agriculteurs. Cette pollution d'ailleurs qui menace justement notre ressource en eau. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé à Douai, effectivement, et ça a été l'un de mes premiers engagements. Pendant 9 ans, puisque j'étais...
Professionnel, celui-là.
Professionnel, professionnel.
Voilà. Après, engagement associatif, également avec la création d'une grosse association de consommateurs.
Ah oui, ça c'était sur un autre plan. Oui, c'était un engagement personnel qui n'était pas professionnel. Bon, effectivement, j'ai créé il y a 50 ans exactement. D'ailleurs, on va fêter le 50e anniversaire en février 2026, donc dans quelques semaines. La création de ce qui s'appelait à l'époque Douai Consommateur, qui est une association affiliée à l'association nationale Que Choisir. Et nous l'avons créée avec quelques dizaines de militants à la MJC de Douai, d'ailleurs, en février 2026, il y a 50 ans, pour défendre les consommateurs.
Et qu'est-ce qui vous amène finalement à rentrer cette fois-ci en responsabilité, que ce soit à la ville, à la région, et d'aller chercher le mandat pour pouvoir faire. Si notre forme d'engagement, ça change quelque chose. On vient d'évoquer avec Camille, voilà, on la sent déjà très investie, très, très motivée. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à dire « je veux rentrer aux manettes et aux commandes »
J'ai toujours été attiré, par la vie publique et par l'engagement public. Quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, en fait, j'avais le choix d'aller dans le privé, comme on dit, ou d'aller plutôt dans la vie publique. Et personnellement, j'étais plutôt attiré par la vie publique. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à chercher un engagement municipal? Après mon engagement associatif, vous venez de rappeler mon engagement associatif pour Douai Consommateur, où j'avais aussi milité dans une association pour le logement des personnes défavorisées, le PACT. Quand on est dans la vie associative, quand on s'engage ainsi, on peut avoir vite envie de devenir élu municipal. Parce que, si vous voulez, je me souviens, quand j'étais responsable de Douai Consommateurs et de l'association des mal logés, je frappais à la porte de mon prédécesseur, du maire de Douai, Charles Fenin, pour avoir des subventions. Quand on est dans la vie associative, on est en état de demander, de supplier des aides, des subventions, etc. Et puis je me suis dit qu'au fond, si je passais de l'autre côté de la barrière, à ce moment-là, j'aurais plus de moyens. C'est vrai, on a plus de moyens quand on est dans une ville, dans une municipalité ou dans un conseil régional pour subventionner et encourager ce qu'on a envie de subventionner ou d'encourager, que ce soit la culture, le sport, etc. etc. Donc c'est vrai que dans la vie associative, on supplie pour avoir des moyens. Dans la vie politique, dans les conseils municipaux, régionaux, on distribue les moyens. On a quand même un peu plus de possibilités.
Quand vous entendez tout à l'heure Camille qui dit « Moi, je vais avoir 16 ans, j'habite Lambre-les-Douai, je suis investi, j'ai pas le droit de vote. » On est dans une ville, ici, UNICEF Droits de l'Enfant, l'UNICEF qui défend et qui promeut le droit de vote pour les mineurs de 16 ans aux élections de proximité. Vous seriez plutôt favorable, vous, à une telle mesure? Est-ce que ça pourrait faire sens?
Oh, il y a toujours eu des grandes discussions sur l'âge de la majorité. Hein. Vous qui êtes jeune, vous n'avez pas connu l'époque, qui était mon époque d'ailleurs, où on avait la majorité à 21 ans, pas à 18 ans. Bon. Alors faut-il baisser encore la majorité, notamment la majorité pour voter à 16 ans? Bon.
Sur des élections de proximité où on a quand même des jeunes qui sont directement concernés par leur vie communale?
Oui, peut-être, mais il faut aussi un minimum de, je ne sais pas, d'expérience, de réflexion, parce que, bon, vous savez, les jeunes, c'est comme tout le monde, d'ailleurs. Il y en a qui sont très, très en avance dans leur évolution, etc., etc., qui, à 15 ans, sont déjà des jeunes engagés. Hein, on vient d'en avoir le témoignage. Et puis, il y en a d'autres qui sont quand même pas très matures. Alors, voilà, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus.
Le SMAC publie le portrait de Jacques Vernier réalisé par les jeunes de la MJC de Lambre-les-Douai, fascicule dans la collection Les Grands des Hauts-de-France. Et à cette occasion, rencontre avec Ilan et Camille qui ont participé à la réalisation de ce portrait et Jacques Vernier, le maire honoraire de Douai. Émission enregistrée à la MJC, Espace Hélios de Lambre-les-Douai. Vous avez préféré être un élu de majorité ou un élu d'opposition? C'est quoi la position la plus confortable?
La position la plus confortable, c'est évidemment d'être dans la majorité, conformément à ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes dans une ville ou dans un conseil régional, c'est pour faire des choses. Évidemment, si vous êtes dans la majorité, vous avez le pouvoir de faire les choses. Si vous êtes dans l'opposition, vous êtes un petit peu spectateur. Hein. Bon. Mais je n'ai pas, par exemple, gardé un mauvais souvenir, au contraire, de toutes les années, des 25 années que j'ai passées au conseil régional, toujours dans l'opposition, parce que j'ai eu la chance, en tout cas pendant une grande partie de mon passage au conseil régional, d'avoir un président, bon, qui n'était pas de mon bord, j'étais dans l'opposition, mais qui était quelqu'un de remarquable. Daniel Percheron a été un président extraordinaire du Conseil régional. Il a fait des choses d'ailleurs remarquables. Il était très attentif aux propositions ou aux remarques ou aux contestations que l'opposition pouvait faire. Donc quand on est dans cet état de bon dialogue entre la majorité et l'opposition, ça peut être quand même passionnant d'être dans l'opposition.
Vous intéressez de façon générale, vous, jeunes, là, aux questions de société, aux gens qui parlent, quand il y a des politiques qui s'expriment sur des sujets qui peuvent vous toucher directement. Tiens, par exemple, on entend beaucoup parler, tu sais, de l'interdiction ou la restriction pour les enfants sur les réseaux sociaux, sur les applications. Voilà. Est-ce que vous vous intéressez à ces questions qui vous concernent directement? Et est-ce que vous faites confiance aux gens qui réfléchissent là-dessus?
Alors, oui, moi, je m'y intéresse beaucoup, surtout au niveau avec mes parents, tout ça, parce qu'on en parle directement. J'ai confiance un peu, mais voilà, quoi.
Tu écoutes ce qui se dit quand même.
Ah oui, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop non plus nous écouter, nous, les jeunes.
T'as l'impression qu'il y a une déconnexion de ce côté-là, Ilan ?
Moi, j'écoute des fois, je regarde les informations comme ça, mais je sais pas trop quoi en penser. Les réseaux sociaux, des fois, il y en a qui servent à rien, parce qu'il y a messages, donc on peut s'envoyer des messages, enfin... Sur message, on peut faire des groupes comme par exemple sur Snapchat. Donc oui, j'ai aussi des réseaux sociaux, mais j'utilise quasiment jamais.
Et sur d'autres questions, comme par exemple, tu vois, là, on a reparlé des rythmes scolaires, ça va vous concerner directement, une semaine à 4 jours, à 5 jours ou quoi que ce soit. Est-ce que vous vous intéressez à tout ça ou pas? À cette parole qui est portée?
Non, pas vraiment.
Camille ?
Bah, moi aussi, un peu, surtout sur la vie lycéenne, parce qu'entre les devoirs, quand on finit à 18h, tout ça, et vu que je suis engagée aussi, en fait, j'ai pas trop le temps pour moi, parce que je suis bénévole auprès de mon lycée, mais aussi auprès de la MJC, ou auprès aussi de mes parents, parce que des fois, ils font des choses.
Tu apprends autant dans tes engagements qu'à l'école ?
Oui, c'est important, parce que c'est pas la même chose qu'on apprend au lycée. Ou même au collège, tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus entouré de personnes, qu'on arrive mieux à comprendre la vie collective, surtout.
C'est important d'être impliqué comme ça.
T'as déjà manifesté ?
Alors moi, ma mère, elle veut pas, parce qu'elle a dit que je suis trop jeune pour l'instant, du coup, j'ai le droit d'en parler, mais elle veut pas que je monte directement pour pas que j'ai de problème, en fait.
Pour te protéger ?
Oui, pour me protéger.
Ilan ?
Moi, ça, j'y ai même pas pensé à manifester. Je verrai plus tard.
Dans ce livret, on parle d'une mobilisation qui a été menée et dont vous avez été également partie prenante, Monsieur Vernier. Ça fait partie de votre culture, la manifestation ?
Oh, moi, j'ai bien aimé manifester, oui, quand j'estimais que la cause était importante. J'ai manifesté pour la survie de l'usine ferroviaire Arbel à Douai. Nous avons manifesté pour le maintien du régiment militaire à Douai, etc., etc. Oui, on a manifesté pour la déviation routière de Quentin. Enfin, je ne compte pas les manifestations, elles ont été très nombreuses.
Ici, actuellement, il y a des mouvements sur l'Ambre-les-Doué, justement des gens qui contestent et qui s'organisent en collectif sur la zone de la Braille, c'est bien ça. Quel regard vous portez là-dessus, sur ces mobilisations citoyennes qui questionnent sur les choix qui sont faits? Ils sont utiles, ces contestations, ou pas?
Il est toujours utile d'avoir plusieurs opinions sur un sujet. Bon, là, vous citez les gens qui, au fond, manifestent parce que on va mordre sur des terrains qui sont actuellement agricoles pour faire des terrains industriels. Bon, c'est un vrai débat. D'ailleurs, moi je comprends les deux opinions. Il y a l'opinion d'Ouesi Aglo qui considère qu'il n'y a plus assez de terrains pour développer l'industrie à Douai, donc qui veut des terrains supplémentaires et qui veut les trouver en convertissant des terrains agricoles à des terrains industriels. Ça, c'est l'avis de Ouesi Aglo. Et puis, il y a d'autres personnes qui considèrent que les terrains agricoles sont, entre guillemets, sacrés, parce qu'ils sont utiles pour notre nourriture, etc., etc., et qu'il faut pas convertir des terrains agricoles en terrains industriels. Les deux opinions se défendent, et donc c'est intéressant qu'on ait des gens qui manifestent pour la première opinion et pour la seconde.
C'est justement le courage politique qui fait finalement la différence à ce moment-là, en disant oui, ben voilà, je ne vais pas faire l'unanimité, ce n'est pas facile, mais je pense que dans l'intérêt, il faut prendre cette décision-là. Vous parlez également du tram douaisien. Le bilan est quand même plutôt positif quand vous regardez ça maintenant. Après, peut-être la déception immédiate de ne pas avoir obtenu ce que vous espériez à l'époque.
Dans le projet de tram douaisien, il y avait deux choses. Une chose qui a échoué et une chose qui a réussi. Bon. La chose qui a échoué, c'est que le président des transports douaisiens de l'époque avait souhaité ou rêvé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'un tram qui soit gouverné par ordinateur, c'est-à-dire
automatisé,
automatique, conduit par ordinateur, un tram autonome. Bon. Cette idée, elle n'a pas pu être mise au point sur le plan technique, parce qu'à l'époque, on était en 2008, donc on était il y a 17 ans, et c'était trop tôt pour avoir cette idée. Aujourd'hui, quand on lit la presse, on voit que dans plusieurs villes, plusieurs très grandes villes du monde entier, San Francisco, etc., etc., eh bien, vous avez des voitures autonomes, c'est-à-dire qui roulent toutes seules dans la circulation. Mais ça, c'est aujourd'hui en 2025. En 2008, c'était sûrement trop tôt pour développer cette idée d'un tram autonome roulant tout seul grâce à un ordinateur. Donc cette idée-là, elle était trop prématurée, elle a échoué. Et la deuxième chose qui a réussi, c'est que pour faire, évidemment, rouler ce tram, il fallait construire des pistes, des routes, des infrastructures, et ces routes ont été construites pour la ligne numéro 1 du tram. Elles ont été récemment aussi construites pour une nouvelle ligne, la deuxième ligne de bus, de tram, et évidemment, ça, c'est une réussite parce que vous avez maintenant dans tout le Douaisi des routes qui sont spécifiques pour le tram, enfin pour les bus
à haut rendement de service.
Pour le bus à haut niveau de service. Oui. Moi, je l'appelle toujours le tram. D'ailleurs, beaucoup de gens l'appellent aussi le tram.
Ah, moi, j'appelle le trus. Oh, oui. Je fais le mélange des deux.
Alors, donc, on va dire le tram. Bon. Et ces deux lignes de tram roulent sur des pistes qui leur sont affectées. Et ça, c'est important, parce que du coup, les deux lignes de tram ne sont pas bloquées dans les encombrements routiers. Donc ça a réussi. On a fait des belles routes, des belles infrastructures dédiées au tram. Et ça, évidemment, c'est resté. Ce qui n'a pas réussi, c'était le tram automatique. Et ce qui n'était pas prévu à l'époque, c'est la gratuité. Ça, c'est aussi une grande décision politique. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose d'utile que de pouvoir très facilement pouvoir se rendre à Douai ou dans le Douaisis quand on est lambrésien?
Bah oui, c'est important, je trouve, surtout pour les jeunes qui ont peut-être pas tout de suite l'argent ou même les parents s'ils peuvent pas en donner. Tout ça, c'est tellement mieux.
Le SMAC publie le portrait de Jacques Vernier réalisé par les jeunes de la MJC de Lambreuil-Douai, fascicule dans la collection Les Grands des Hauts-de-France. Et à cette occasion, rencontre avec Ilan et Camille qui ont participé à la réalisation de ce portrait et Jacques Vernier, le maire honoraire de Douai. Émission enregistrée à la MJC Espace Hélios de Lambreuil-Douai. Comment vous avez su et comment vous avez trouvé que M. Vernier s'était lancé, moi je ne le savais même pas, dans l'aventure de la restauration alimentaire, le coût du restaurant, j'ai appris ça dans l'ouvrage. Comment vous êtes, c'était prévu dans le questionnaire que vous aviez fait, et comment vous avez interviewé M. Vernier? Expliquez-nous un petit peu.
L'interview, bah, on s'était tous réunis, certains jeunes de la MJC pour préparer les questions. On avait préparé beaucoup de questions, donc notamment une question en rapport avec les anciens métiers de Monsieur Vernier. Et c'est là où il nous a parlé du restaurant où il avait travaillé.
Expliquez-nous un petit peu. Vous avez travaillé dans la restauration.
Oui, non, c'est pas tout à fait ça. C'est que j'ai rêvé pendant un long moment de ma vie de tenir un restaurant. Et puis, bon, il y a eu la vie municipale, mais quand j'ai quitté la mairie de Douai, j'ai encore eu envie d'ouvrir un restaurant. Puis ma femme a trouvé que déjà, bon, la vie municipale, c'était pas facile, que s'il fallait à 70 ans ouvrir un restaurant, c'était pas tout à fait raisonnable, selon elle.
Alors, et si on veut vous inviter au restaurant, vous faire plaisir, ça aurait été quel type de restaurant? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est important, le bien manger.
Un restaurant, pas un restaurant de malbouffe. Hein. Non, j'aurais souhaité m'investir dans la...
Vous êtes gourmand?
Dans la gastronomie, oui, absolument.
Gourmand-gourmet?
J'ai suivi des stages, d'ailleurs, j'ai suivi deux stages. L'un, c'était chez Meurin, vous savez, ce restaurant qui est près de Béthune. Et puis, j'ai suivi un stage aussi chez Alain Ducasse à Paris. C'était mon cadeau d'ailleurs. C'était très gentil, c'était le cadeau que m'ont fait les fonctionnaires municipaux quand j'ai quitté la mairie. Ils m'ont offert un stage chez Ducasse à Paris, donc j'ai fait ce stage pendant 8 jours. Mais je n'ai pas ouvert mon restaurant.
Aujourd'hui, c'est illustré, ça. Et vous avez également travaillé l'illustration du livret. Vous pouvez m'en parler de ça? C'est passé comment?
Ça s'est passé, on était avec un illustrateur, Roderick, qui nous a montré comment lui il dessinait. Il nous a montré quand même un de ses livres. Il nous a expliqué comment mettre en page des images. Il nous a même prêté sa tablette graphique pour qu'on puisse dessiner. Il nous a vraiment, je vais pas dire tout appris, mais bien aidé pour ce livre.
C'était intéressant.
Très intéressant d'apprendre à faire ça.
Tout à l'heure, je vous posais la question de est-ce que vous écoutez un petit peu ce qui se passe, les thèmes de société, les débats, les choses comme ça. Le fait d'avoir mené une interview, le fait d'avoir condensé, d'avoir illustré, est-ce qu'aujourd'hui ça change votre regard sur le rôle des médias, justement, sur la façon dont l'information vous arrive, que ce soit par l'écrit, par l'interview à la télé, à la radio ou sur le net?
On se rend compte comme quoi c'est difficile, parce qu'il faut vaincre la timidité pour parler, tout ça. Faut préparer les questions à l'avance, ou peut-être avoir des questions comme ça qui arrivent d'un coup. Donc improviser, c'est hyper difficile.
T'étais intimidée par Jacques Vernier?
Pas spécialement, c'était surtout avec la caméra ou le regard des autres. Ils nous regardaient, tout ça sans parler. Du coup, on ne savait pas ce qu'ils pensaient sur nous ou la façon dont on parlait ou comment on avait fait les questions.
Ouais. Ilan, ça a changé quelque chose chez toi aujourd'hui? Tu regardes les livres, les magazines, l'information de façon différente maintenant que tu as appris un petit peu à poser des questions, à aller chercher des réponses?
Bah oui, ça m'arrive de regarder les informations, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit dans des magazines. Des fois, il y a des choses qui me touchent, je trouve ça important de savoir ce qui se passe dans le monde.
Et puis, moi, j'ai appris un truc, parce que vous m'avez appris des tas de choses dans le bouquin. J'invite tout le monde à le lire. Le muséroscope, c'est ça?
Le mesuroscope.
Mesuroscope, c'était quoi cette idée?
Oh, le mesuroscope, hein. C'est-à-dire que, en fait, on voulait, et je voulais, ou j'aurais voulu, qu'il y ait à Douai quelque chose de significatif, qui soit un peu la marque de Douai, comme dirait le président actuel de Douaisiaglo, qui serait l'attractivité du territoire, un phare que les gens viendraient voir, viendraient visiter. Bon. Et alors, j'avais un de mes collaborateurs, très créatif, très inventif, qui avait eu cette idée de mesuroscope. Mais c'était une sorte de lieu qui était axé sur la mesure. Son constat, c'était de dire que dans notre vie de tous les jours, on est envahi, on est traversé par la mesure. On mesure le temps qu'il faut pour cuire notre œuf à la coque. On mesure le temps, la vitesse à laquelle on roule, on mesure sa tension artérielle, on mesure la quantité de viande qu'on achète chez le boucher, etc., etc. C'est dingue à quel point tous les jours on mesure quelque chose. Et il voulait un lieu un peu comme un palais de la découverte qui illustre toutes ces mesures qui traversent, qui envahissent notre vie. Alors à l'époque, tout le monde a trouvé ça génial d'ailleurs. Tout le monde a trouvé ça génial. Je le dis parce que ce n'était pas mon idée, hein. C'était l'idée de mon collègue, de mon collaborateur. Et alors du coup, on a voulu faire ça. En plus, on voulait le faire là où est le parc Vernier actuellement, c'est-à-dire au bord du lac, ouais. dans un lieu un peu emblématique, dans un beau lieu. Et on a lancé un concours. Parce que le problème, c'était que cette sorte de palais, un petit peu comme la Villette à Paris, quoi, de palais technique et scientifique sur la mesure, il fallait que ce soit attractif, il fallait que ce soit ludique, que les gens aient du plaisir à venir visiter. Et alors, malheureusement, quand on a fait un concours pour créer ce lieu, d'abord, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui se sont présentées. Il y en a eu deux. Il y en a une qui a déclaré forfait, qui a abandonné en cours de route. Et l'autre, eh bien, son projet ne nous séduisait pas du tout. On s'est dit, ça ne va pas être attractif, ça ne va pas être ludique. Et finalement, on a abandonné le projet. Et même ceux qui avaient été le plus enthousiastes par ce projet, quand ils ont vu que les soi-disant créateurs n'avaient rien créé d'attirant, eh bien, même les plus enthousiastes ont dit « on arrête ». Mais on a arrêté, et 20 ans après, ou 30 ans après, je regrette toujours d'avoir...
Un équivalent existe ailleurs ou pas ?
D'avoir dû... Non, en plus, non, il n'y avait pas d'équivalent. Je regrette toujours d'avoir dû arrêter.
Vous sentez plutôt un homme mesuré aujourd'hui quand vous écoutez parfois les discours extrémistes de où qu'ils viennent. Aujourd'hui également, on peut être exigeant, alertant, parce que vous avez également été, on l'entendait tout à l'heure, hein, sur la question du dérèglement climatique, parmi ceux qui portaient une parole forte et alarmante, on peut être exigeant, alarmant, mais être un homme de mesure également, et ne pas être dans cet extrémisme-là.
Oui, oui, vous avez employé le mot mesure, un homme de mesure. Oui, bon, écoutez, ça c'est mon tempérament. Je pense être profondément mesuré, modéré. J'ai un peu horreur de tout ce qui est extrême. Il y a un proverbe que j'aimais bien, hein, tout ce qui est excessif, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, voilà. Tous les gens qui sont trop radicaux dans leurs opinions, dans leurs propositions, etc. Bon, voilà, c'est pas ça me plaît pas trop.
Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice. C'est une belle rencontre, celle que tu as faite avec Jacques Vernier, Camille.
Oui, c'était une très belle rencontre.
Ouais, voilà. Ben, en tout cas, je te remercie également des réponses à apporter. Prochainement, maire de Lambre-les-Douées ou pas?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ilan, merci.
Mais merci à vous.
Voilà, je vais vous laisser maintenant découvrir votre travail. Puis bon, on peut vous applaudir en tout cas, bravo. Et nous étions avec Jacques Vernier, maire honoraire de Douai. Et puis Ilan et Camille, deux des jeunes qui ont fait partie de cette aventure du secteur jeunesse dans la réalisation de ce portrait de Jacques Vernier sous l'impulsion du SMAC dans la collection Les Grands des Hauts-de-France. À bientôt sur Radio Scarpe 107.